Vous écoutez, on lit pour vous.
Choisir la location, avantageux ou non? Face à la hausse des taux d'intérêt, est-ce le bon temps de vendre sa maison pour devenir locataire? Un texte de Sophie Stival, paru en 2023 dans le guide Se loger. Plusieurs mythes circulent en matière d'habitation selon Éric Brassard, auteur du livre Un chez moi à mon coût, paru il y a quelques années. Le plus tenace, être locataire, c'est payer dans le vide. Tout au long de sa carrière, le fondateur du cabinet BGY, Service financier intégré, aujourd'hui à la retraite, a réfuté ces fausses logiques financières. D'abord, il existe des milliers de logements plus coûteux à louer que de milliers d'autres à vendre et vice-versa. La décision d'aller en location ne sera d'ailleurs pas toujours d'ordre financier. Plusieurs variables sont à considérer et oui, bien sûr, il faut faire des calculs. Avant toute chose, on veut déterminer si on vend pour des raisons de santé ou parce que notre milieu de vie ne nous convient plus, dit Éric Brassard. Si on est heureux dans notre maison et qu'on est en bonne forme physique, pourquoi ne pas demeurer chez nous? En plus des contraintes financières, on veut examiner les aspects qualitatifs de notre lieu de résidence. Certains préféreront la ville à la campagne. Ils voudront aller au restaurant et faire leurs courses à pied ou être près des services et des centres hospitaliers. Si on a 3 ou 4 chambres à coucher et que nos enfants sont partis, peut-être que la surface habitable est maintenant trop grande. Pour d'autres, bricoler ou jardiner les motive à habiter le plus longtemps possible dans leur maison en banlieue ou en région rurale. Si notre propriété est entièrement payée, il est envisageable d'utiliser ce capital immobilisé. Il suffit de contracter une marge de crédit hypothécaire. On voudra alors faire des prévisions et ne pas abuser d'une année à l'autre en pigeant des sommes déraisonnables. On tiendra compte aussi de notre espérance de vie, ajoute notre expert. Pensons à une marge de crédit hypothécaire de 100 000 $ pour une maison qui en vaut 500 000 $. On pourrait donc se payer un peu de luxe comme un voyage tous les ans ou tous les 2 ans. Cela sous-entend que nos enfants ne dépendent plus de nous et que nos désirs de léguer un héritage sont comblés. En pigeant dans notre marge de crédit, on accepte de voir croître les frais d'intérêt au fil des ans. Certains ne seront pas à l'aise avec ce nouvel endettement, notamment avec la hausse des taux d'intérêt l'an dernier, ce n'est donc pas nécessairement la meilleure solution pour tous. Cela équivaut à vendre notre propriété pour ensuite laisser s'effriter le capital en utilisant une partie de ce montant chaque année pour vivre, souligne Éric Brassard. Dans le cas où la santé ou même l'envie de rester dans notre maison n'y est plus, on pourrait la vendre pour demeurer dans plus petit ou en location. Mais malgré le ralentissement immobilier durant la dernière année, le marché de la copropriété et celui locatif demeurent peu abordables. Vu la hausse du coût de la vie durant la dernière année, les frais de condo et d'entretien pourraient continuer d'augmenter. Par ailleurs, la pandémie a contribué à gonfler davantage encore le prix des maisons unifamiliales. La hausse des taux d'intérêt semble cependant toucher un peu plus les maisons haut de gamme. Dans la plupart des régions du sud de la province, les propriétaires de longue date ont accumulé un joli pactole. Vendre sa maison pour aller en location pourrait donc s'avérer judicieux pour les retraités, souligne Charles Brandt, directeur du service de l'analyse du marché de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, APCIQ. La région de Montréal est particulièrement visée par cette affirmation, mais des villes comme Québec et Trois-Rivières ont également connu de fortes hausses du prix des maisons. Pourquoi pas louer? Louer peut aussi apporter son lot de soucis. Pensons au risque de se faire évincer par un propriétaire qui souhaite effectuer des travaux majeurs à la bâtisse. Et que dire du prix des loyers qui a explosé ces dernières années? Quelques nuances s'imposent. Prenons l'exemple suivant. on désire vendre notre résidence exempte d'hypothèque au prix de 500 000 $ pour aller en location. Même si le loyer s'élève à 2 000 $ par mois, rappelons-nous que vivre dans une maison payée reste dispendieux. Il faut assumer les taxes, les assurances, l'électricité, le chauffage, l'entretien, le déneigement, les rénovations majeures, etc. Il y a un coût de renonciation et des revenus perdus en raison du capital immobilisé dans une maison plutôt qu'investi ailleurs. Exemple, portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse, précise Éric Brassard. Si nos REER ou nos CELI ne sont pas comblés, mieux vaut aussi en tenir compte. On pourrait maximiser notre épargne en versant des cotisations à ces régimes enregistrés. Si on génère un rendement net de 5% par année sur ce montant de 500 000 $, cela représente 25 000 $ par année ou un peu plus de 2 000 $ par mois qu'on pourra dépenser. En conservant notre maison, on renonce à faire fructifier cet argent. Bien sûr, la prise de valeur des propriétés ces dernières années doit aussi être considérée. Et ce profit n'est pas imposable en raison de l'exemption sur le gain en capital sur la résidence principale. Mais encore là, on ne doit pas oublier toutes les sorties de fonds au fil des ans liées à l'entretien et aux divers coûts de notre résidence. On veut faire des calculs pour évaluer comment le capital va s'effriter. On émet des hypothèses en tenant compte notamment de notre coût de vie, du taux d'inflation, du rendement généré sur les placements, selon notre profil d'investisseur, ajoute notre expert. Si on a 60 ans et qu'on n'a plus un sou à 82 ans, le plan financier ne fonctionne pas. L'espérance de vie étant une moyenne, on a une chance sur deux d'être encore vivant à cet âge. Par prudence, mieux vaut viser un risque de survie de 25 % voire 10 %. Les centenaires seront de plus en plus fréquents à l'avenir. Enfin, on doit comparer des pommes avec des pommes. En vendant notre maison 300 000 $, on ne pourra pas se permettre de louer un logement de 3 000 $ par mois, à moins d'avoir de l'épargne retraite. Il faut y aller selon nos moyens et être conséquent. Ainsi, un condo bien situé, insonorisé, avec vue et fraîchement rénové, risque de nous coûter plus cher à l'achat, mais également à la location. On ne devrait pas allouer plus de 30 % de nos revenus mensuels au logement, et ceci demeure vrai pour les retraités en location, afin de profiter d'une certaine qualité de vie, souligne Charles Brandt. Cette règle du 30 % utilisée par plusieurs experts est une moyenne, mais dans la vraie vie, la moyenne n'existe pas. J'ai la tête dans le four, les pieds dans la glace, mais en moyenne, je me sens bien. On ne devrait pas décider à la place des gens ce qu'ils paient pour se loger. Si on fait des projections et que le plan financier tient à long terme, c'est à chacun de faire ses choix, observe Éric Brassard. Bonne nouvelle! La proportion de projets locatifs connaît une forte activité par rapport aux constructions neuves de maisons unifamiliales ou en copropriété. C'est particulièrement vrai dans la région de Montréal, mais il y a également plus de constructions locatives en région, notamment à Québec, constate Charles Brandt. Si les taux d'inoccupation restent bas à Montréal, ils sont plus raisonnables dans plusieurs villes telles que Québec. Il est par ailleurs possible de louer un condo en signant un bail. Le marché locatif demeure compétitif, d'après l'économiste de l'APCIQ. Depuis deux décennies, les propriétaires ont payé des frais relativement bas pour les lieux qu'ils ont habités. Malgré tout, aller à loyer, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres comme plusieurs le croient, affirme Éric Brassard. Il faut faire des calculs et tenir compte de tous les coûts. Les taux hypothécaires ayant remonté, l'avantage des propriétaires pourrait donc s'amenuiser dans les prochaines années. Pour faciliter la décision, l'Autorité des marchés financiers propose sur son site, l'autorité.qc.ca, un calculateur qui répond à la fameuse question « louer ou acheter ». Il suffit de cliquer sur les onglets « Grand public, outil et calculateur. Calculateur puis résidence. Est-il préférable de louer ou acheter? On devra fournir divers renseignements et faire des hypothèses. Le résultat nous indique après combien d'années il est avisé d'acheter plutôt que de louer ou l'inverse. Les résultats sont particulièrement sensibles à certaines variables comme le rendement sur nos investissements qu'on doit estimer. Pour une conclusion plus précise et fiable, mieux vaut toutefois consulter un planificateur financier ou un professionnel des services financiers. C'était « Choisir la location, avantageux ou non ?» Face à la hausse des taux d'intérêt, est-ce le bon temps de vendre sa maison pour devenir locataire? Un texte de Sophie Stival, paru en 2023 dans le guide Se loger.
Un musée de paléontologie québécois en quête de lieux d'exposition. Un texte de Maureen Jouglin, paru le 14 juillet 2025 dans le magazine Québec Science. Os de mammouth, moulage de trilobites géants, insectes préhistoriques, une impressionnante collection sommeille dans un garage de Montréal dans l'attente d'un local digne de ce nom. Le garage de Mario Cournoyer a des airs de caverne d'Ali Baba. On y découvre des fossiles un peu partout, des microscopes et une multitude de livres illustrés. Un énorme fémur de mammouth posé sur une étagère donne le ton. Au total, plus de 80 000 fossiles sont entreposés à l'étroit dans cette arrière-cour de l'arrondissement du Sud-Ouest. Depuis 2004, ce garage est au cœur d'un projet ambitieux. Monter un musée d'histoire naturelle à Montréal. Pour porter cette mission, Mario Cournoyer a fondé le Musée de paléontologie et de l'évolution, MPE, un organisme qui rassemble une quarantaine de scientifiques et de bénévoles. Tous espèrent qu'un jour, la collection pourra être présentée dans un véritable lieu d'exposition et qu'un bailleur de fonds ou un mécène rendra le projet pérenne. C'était un musée de paléontologie québécois en quête de lieu d'exposition. Un texte de Maureen Jouglin, paru le 14 juillet 2025 dans le magazine Québec Science.
Pour une autonomie alimentaire saine et durable, un texte de Sophie Mediavilla-Rivard, paru le 23 octobre 2023 dans le magazine Caribou. Est-ce que le Québec est sur la bonne voie quand il est question d'autonomie alimentaire? Selon une nouvelle étude conjointe, il y a encore du chemin à faire. Non seulement il faut poursuivre le développement qui se fait déjà, mais surtout il faut envisager un modèle d'autonomie alimentaire différent qui serait bon pour la santé et pour l'environnement. En septembre dernier, l'Institut de recherche en économie contemporaine, IREC, en collaboration avec Équiterre, le collectif Vital et la chaire de recherche du Canada sur les inégalités en nutrition et santé, rapportait que l'autonomie alimentaire du Québec, telle que développée depuis un demi-siècle, ne permettra pas de nourrir la population de manière saine et durable dans les prochaines années. L'étude a été déclenchée pour répondre au discours politique actuel en matière d'autonomie alimentaire. On trouvait que la vision du gouvernement était claire sur une chose seulement, l'autonomie alimentaire en termes économiques, affirme l'agronome et analyste en agriculture et systèmes alimentaires chez Équiterre, Caroline Lapierre. On ne se demandait pas suffisamment si ce qu'on mange et la façon dont c'est produit, c'est sain pour notre santé et pour celle de notre planète. Les principaux problèmes? D'abord, le secteur bioalimentaire est un important pollueur. Pensons aux émissions de gaz à effet de serre, à la diminution de la biodiversité, à l'appauvrissement des sols ou à la pollution de l'eau et de l'air. Ensuite, les auteurs de l'étude soutiennent que les aliments ultra-transformés ne devraient pas être au cœur du modèle provincial d'autosuffisance. Financer des entreprises produisant ces aliments, peu durables et peu nutritifs, au nom de l'autonomie alimentaire du Québec, n'est pas cohérent ni porteur pour l'avenir, dénonce Équiterre. L'étude propose donc plusieurs pistes de solutions pour combler les lacunes ciblées. Faire le pont entre santé et écologie. À long terme, on aura beau produire plus d'aliments ici, si ces aliments-là contribuent aux maladies chroniques parce qu'ils ne sont pas sains, on n'est pas plus avancé, avance Caroline Lapierre. Elle rappelle que Québec a octroyé 3 millions de dollars pour augmenter la capacité de production de croustilles à PepsiCo en 2022. Selon l'agronome, il s'agit d'un exemple où le gouvernement a négligé des aspects fondamentaux parce que même si l'entreprise est établie au Québec, l'apport nutritif des aliments qui y sont transformés ne s'inscrit pas dans un modèle d'autonomie alimentaire sain. En s'appuyant sur l'analyse de filières d'aliments ultra-transformés, soit les croustilles, les pizzas congelées et le yogourt, l'étude de l'IREC propose des modifications dans le système alimentaire local. Selon le rapport, le fait d'apposer des étiquettes locales sur des produits transformés porte atteinte à la capacité des consommateurs de faire des choix éclairés. Les consommateurs n'ont alors aucun moyen de connaître la provenance des ingrédients utilisés ou encore les pratiques agricoles appliquées. D'où l'importance de mettre de l'avant davantage d'aliments peu transformés et de les rendre attrayants, illustre Caroline Lapierre. Grâce à une approche filière, on devrait encourager les gens à manger moins transformés et inciter le transformateur à ne pas surtransformer les aliments, énonce-t-elle. L'approche filière, c'est quoi? Le rapport propose une approche filière pour arriver à ses fins, mais en quoi ça consiste? Le Fonds international du développement agricole l'a défini comme une façon d'envisager de manière globale l'ensemble de la chaîne concernant un produit, du producteur jusqu'au consommateur final. Par exemple, en agriculture, les phases de transformation, de distribution et de consommation agiraient de concert pour arriver au même résultat. Verdir nos champs. L'enjeu est similaire au niveau des pratiques agricoles. Comment arriver à avoir des produits que les gens ont envie de manger et qui améliorent le bilan environnemental de notre agriculture? Demande l'analyste en agriculture et systèmes alimentaires. Pour elle, une bonne partie de la solution se trouve dans les cultures de céréales et de légumineuses émergentes, comme le sarrasin, l'avoine nue et le soya à identité préservée. L'identité préservée garantit que le soya n'a pas été modifié génétiquement dans le processus de production. Caroline Lapierre pense qu'il faut s'attaquer aux grandes cultures. Ce sont tous les grands champs qu'on voit en se promenant à l'été. Ces superficies-là, au Québec, représentent à peu près la moitié des terres agricoles et 73% d'entre elles sont destinées à nourrir des animaux d'élevage. Elle propose de diversifier ce qui pousse sur ces terres pour davantage et mieux nourrir la population. En plus, la rotation des cultures améliore la qualité des sols. Ça aide vraiment à long terme à avoir une agriculture qui est plus résiliente et des agriculteurs qui vont être capables de mieux faire face aux dérèglements climatiques. Ça devient payant de le faire, soutient l'agronome. On fait d'une pierre trois coups. Si on produit localement des choses qui sont bonnes pour notre santé et notre environnement, c'est à la fois un gain économique, social et environnemental. On est vraiment dans une logique de développement durable, dit Caroline Lapierre. Le mot-clé, c'est « transition ». Modifier le système agricole de cette façon peut soulever des inquiétudes. Caroline Lapierre en est consciente. La première question que tout agriculteur pose, est-ce qu'il y a un marché stable et rentable face aux changements proposés dans le système, expose-t-elle. Sa réponse est lucide. Le mot-clé, c'est transition. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Elle rappelle que la responsabilité incombe au gouvernement de planifier correctement et d'investir les ressources nécessaires, surtout dans un contexte où les agriculteurs en ont déjà beaucoup sur les épaules. Avec tout ça, est-ce qu'une autonomie alimentaire totale serait possible? Ce n'est pas l'objectif, dit Caroline Lapierre, qui vise plutôt un équilibre autonomie-importation. Dans une autarcie, s'il arrive une mauvaise année comme cette année, on va avoir faim. À l'autre extrême, si on est complètement dépendant des importations, c'est risqué aussi selon le contexte géopolitique, dit Caroline Lapierre. Revoir les fondements du système alimentaire. Si l'agronome est encouragée de sentir l'intérêt du gouvernement, elle espère une volonté politique qui permettra du développement, de l'éducation et des investissements dans la direction souhaitée. Il était d'ailleurs important pour les auteurs de l'étude de faire ces propositions avant la prochaine politique bioalimentaire du Québec, alors que celle en cours arrivera à terme en 2025. Le gouvernement pourrait mandater des experts pour accompagner les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les connecter avec les consommateurs pour aider tout ça à s'arrimer. Il y a déjà des publicités sur les produits laitiers, sur la viande. On pourrait très bien décider de faire des campagnes d'éducation avec des grandes cultures de grains et de légumineuses pour les faire connaître, avance Caroline Lapierre. L'équipe d'Équiterre est d'ailleurs en train de travailler sur un projet de démonstration, financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui prouve la faisabilité d'une autonomie alimentaire saine et durable, malgré la complexité de ses différents paramètres. C'est vraiment une question de choix quant à ce qu'on veut avoir comme système agricole et comme système alimentaire ici, insiste l'agronome. C'était « Pour une autonomie alimentaire saine et durable », un texte de Sophie Mediavilla-Rivard paru le 23 octobre 2023 dans le magazine Caribou.
Les espoirs déçus de personnes adoptées. Un texte de Louise Leduc, paru le 2 octobre 2025 dans la Presse Plus. Pendant des mois, Sylvie Tremblay espérait que son conjoint revienne de la boîte aux lettres avec la réponse du gouvernement, qu'elle attend si fort, celle qui lui confirmerait enfin qu'elle a une sœur biologique, comme elle le croit. Les personnes adoptées ont le droit de connaître le nom de leurs parents biologiques, que ces derniers y consentent ou pas, depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi québécoise en juin 2024. Elles peuvent aussi obtenir l'identité de leur fratrie, s'il y a lieu, une copie de l'acte de naissance et les jugements d'adoption. Dès que ce fut possible, Sylvie Tremblay, dont le nom à la naissance était Stella Douglas, a présenté sa demande au gouvernement du Québec. Son questionnement est resté lettre morte, à peu de choses près. Sylvie Tremblay a seulement appris au fil du temps qu'il ne fallait pas laisser de messages sur la boîte vocale, ça rembourbe le système, et qu'elle ne devait pas retenir son souffle à chaque visite à la boîte postale puisque la nouvelle serait annoncée par téléphone. Mais quand? Aucune date ne lui a été donnée. 17 postes sur 59 supprimés en avril. La presse a posé une série de questions sur le processus de divulgation au ministère de la Santé, qui a simplement évoqué des délais impondérables propres à ce type de démarche. Le ministère nous a dirigés vers Santé Québec pour plus d'informations. Santé Québec nous a redirigés vers le ministère avant de nous suggérer d'écrire à chacun des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, CIS et CIUS, de la province. Celui du centre-sud de l'île de Montréal nous a répondu que la capacité de ses équipes ne lui permettait pas de répondre à nos questions ces jours-ci, mais qu'il pourra le faire la semaine prochaine. Un suivi sera fait par la presse. Selon une autre source, 17 des 59 personnes qui travaillaient spécifiquement à la recherche d'antécédents familiaux à travers le Québec ont perdu leur poste depuis avril 2025, une information confirmée par le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Et les délais? Le temps estimé pour conclure une demande de service est habituellement d'une année, a répondu un porte-parole du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, le seul à ne pas avoir subi de coupe dans le service de recherche d'antécédents familiaux. Sylvie Tremblay ne s'attend pas à obtenir une réponse avant un bon bout de temps. Il semble qu'on priorise les personnes qui n'ont presque plus de temps devant elles, celles qui sont très âgées ou très malades, comme en phase terminale, dit-elle. La tentation de procéder autrement. Grâce à la base de données généalogique Ancestry et à une recherche dans les avis de décès, elle sait que sa mère biologique est vraisemblablement morte il y a quelques mois. De toute manière, là n'est pas sa quête principale. Il y a plusieurs années déjà, elle avait présenté une demande pour connaître sa mère biologique qui a refusé que l'information lui soit transmise. Avant juin 2024, si le parent biologique opposait un refus, rien ne pouvait être divulgué à l'enfant. C'est plutôt sa sœur biologique qu'elle veut retrouver. D'après ses recherches dans Ancestry, elle est presque convaincue de son identité et elle pense aussi avoir trouvé son adresse courriel. Des experts lui ont cependant déconseillé de la contacter comme ça, abruptement, si elle n'a pas encore de réponse officielle des autorités. Ça pourrait lui causer un trop gros choc, font-ils valoir. Moi, j'ai été abandonné à la crèche. J'ai été adopté. Ça fait plus de 50 ans que je fais des recherches, souligne Sylvie Tremblay. On sait tous quelle était la situation de la femme à l'époque. Je me dis que si je la contacte directement, ma sœur s'en remettrait sûrement. Nadine, qui préfère qu'on ne publie pas son nom de famille, regrette elle aussi que le gouvernement lui ait donné espoir avec sa nouvelle loi, avant de la laisser en plan. Nadine a aussi présenté sa demande au gouvernement dès juin 2024. On lui avait fait comprendre qu'on lui dirait assez rapidement, au moins, si sa mère est morte ou vivante. Elle n'a plus eu de nouvelles depuis. Comme pour Sylvie Tremblay, techniquement, ça devait être plutôt simple. Le gouvernement avait déjà contacté sa mère, qui avait elle aussi refusé d'être identifiée. Elle ne veut pas rencontrer sa mère. Elle veut simplement avoir des renseignements sur l'histoire médicale de la famille. C'était « Les espoirs déçus de personnes adoptées ». Un texte de Louise Leduc, paru le 2 octobre 2025 dans la Presse Plus.